Inouï, une émission de création et documentaire sonore par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Salut!
Salut! Vous êtes bien sûr Inouï!
Pour une heure de plaisir!
Aujourd'hui, au programme,
deux documentaires tout fraîchement réalisés par Anne-Sophie Pifka et Clément Régnac à l'issue de cette première année au Créadoc.
À travers leur création, tous deux se questionnent sur leur engagement politique.
Anne-Sophie nous raconte l'histoire de deux femmes qui vivent en yourte sur un terrain qu'elles partagent et qui prennent un jour la décision d'accueillir un jeune sans-papiers.
Documentaire.
Il y a cette femme au bout du fil qui me parle d'immigration. Alors oui, c'est triste, ok, mais moi j'ai d'autres soucis en tête. Et en plus, quand je suis venue m'installer en yourte sur le terrain de Philippe et Jacqueline, c'était quand même pour être tranquille. Mais bon, je lui dis que je vais en parler au proprio. Et en fait, dès qu'elle raccroche, je commence tout de suite à lui écrire un message. Alexandra, je suis désolée, les proprios ne sont pas d'accord. Je m'apprête à lui envoyer et là je me dis ouais. C'est pas très humain là, ce que je suis en train de faire. Et Odile, c'est ma voisine, depuis quelques mois. On s'entend bien, mais ses engagements politiques, je les connais pas. Le terrain, de Anne-Sophie Pifka.
Anne-Sophie vient me voir un peu catastrophée, avec une tête un peu déconfite, pour me dire, oh là là, il y a Alex. Donc une fille qui était à la soirée de l'anniversaire. Alex qui me demande si sur le terrain on ne peut pas héberger un jeune Kenyan qui est dans la galère parce qu'il n'a plus de papier. Elle m'explique ça très vaguement. Et moi tout de suite, toute contente, je dis « Ah, c'est chouette parce que c'est exactement ce que je veux faire ». Je me suis déjà occupée plusieurs fois de migrants et je me dis justement sur ce terrain, il y aurait quand même de la place pour héberger quelqu'un. Et donc, je dis à Jacqueline, ben voilà, il y a un jeune qui peut venir. Je suis prête à l'héberger. Est-ce que tu es OK? Est-ce que Philippe est OK? Tout de suite, ils me disent oui. Parce qu'en fait, du moment que je prends en charge avec Anne-Sophie, ben, ça ne les dérange pas. Et donc, on recontacte l'éducateur de l'aide sociale à l'enfance qui s'occupe de JT, puisque JT, c'est son nom. Et quelques jours après, on reçoit donc Yvon, l'éducateur, et JT.
Boyaka, comment tu savais,
Parce que commence à te connaître, ouais.
Ah oui, tu me connais, Boyaka,
Allez, Wakatepe, Paboun. Ouais, tu sais dans quoi c'est ça?
Eh, je le connais, l'Indien.
Un Indien dans la ville.
Voilà, je le connais très bien, Ça c'est, je connais très bien.
J'observe JT, qui a les yeux rivés sur ses baskets. Et je le regarde de la tête aux pieds. Il a des baskets bleues, assorties avec un t-shirt bleu, avec une casquette bleue, un bandana sous la casquette, des lunettes style Ray-Ban, le baggy qui tombe en dessous de la ceinture, style rappeur américain, quoi. Je sens que c'est quelqu'un qui est plutôt coquet, qui fait attention à son image, qui prend soin de lui. Nous, c'est... Bah, c'est tout le contraire, notre image on s'en fout, et puis sur le terrain on n'est ni relié à l'eau, ni au gaz, ni à l'électricité, on a des toilettes sèches, dehors, même l'hiver.
Quand je suis arrivé sur ce terrain, en fait, j'étais avec mon éducateur, et donc j'ai vu deux femmes.
I was like, what the fuck? And then after I was like, it's not.
Je me suis dit que, enfin, je pouvais pas vivre, je pouvais pas vivre ici en fait parce que, enfin, de un, je peux pas vivre avec des femmes, c'est trop dur pour moi.
It's hard for me.
Trop dur pour moi.
And then hey, I'm looking at the.
Et donc j'ai vu la yourte.
The hut.
J'ai vu une des yourtes et j'ai fait
what the fuck is this hut? I say,
Et donc mon éducateur a dit, attends, on va d'abord parler avec les deux femmes et puis on va voir comment ça se passe.
JT nous explique que sa situation, qu'il a plus droit à son titre de séjour, que ça fait presque 7 ans qu'il est en France, que tout s'est arrêté pour lui et qu'il n'a plus de salaire, qu'il n'a plus rien, mais que ça ne va pas durer longtemps.
Je suis arrivé en France quand j'avais 15 ans et demi.
Quand
j'ai eu 18 ans, ma famille d'accueil m'a dégagé en fait. Parce que j'étais plus mineur. Et donc à 18 ans, je devais partir. Et donc je me suis retrouvé à l'hôtel parce que l'aide sociale pour l'enfance n'avait plus de place pour moi. Et donc ils m'ont mis dans un hôtel. Et après donc ils m'ont trouvé un endroit. C'était un petit studio. La préfecture m'a donné les papiers pour pouvoir rester en France. Ils me l'ont donné deux fois, même. Mais en janvier 2017, la loi a changé. Et donc quand je suis retourné à la préfecture pour avoir mon troisième titre de séjour, ils m'ont dit non, vous devez avoir un passeport. Et donc je me suis retrouvé sans papier et à cause de ça je pouvais même plus travailler parce qu'en France sans papier tu peux pas travailler. Et donc j'ai demandé de l'aide partout et ils me disaient tous oui bien sûr on peut vous aider mais pas si vous avez pas de papier.
Avant j'étais ici pour pendant un an à la gym, au salle.
T'allais faire du sport en salle.
Oui. J'étais sûr 2014-2015, j'étais là juste pendant un an.
Mais tu payais combien?
Chaque jeudi. Lui, c'était bien, putain. À cause de meuf, hein.
Elle est beau. Ah ouais.
Elle est belle meuf là, j'étais juste ça. Quand tu fais même le sport, tu vois. Même tu n'es pas assez costaud et tout. Oh.
C'est pour avoir des bons muscles, c'est ça?
C'est ça. D'accord. C'était avant. C'était 2014.
Odile dit à Yvon, de toute façon, on ne peut que pour cet été parce que cet hiver, les habitats. Enfin voilà, on ne peut pas le loger chez nous. Y a une yourte, c'est une pièce unique. On ne va pas non plus loger les uns sur les autres, quoi. Ils repartent et avec Odile, on continue un peu de discuter. Je suis très claire, je lui dis, écoute, moi je suis en galère d'oseille, je vais pas le prendre en charge. Voilà, je dépenserai pas une thune, quoi. Je te préviens, donc j'espère que t'es sûre de ton coup. Et elle me dit, mais moi non plus, j'ai pas l'intention de dépenser de l'argent pour lui. De toute façon, Yvon, il a dit qu'il est autonome, donc on n'a pas besoin de subvenir à ses besoins. Et on est très ferme là-dessus. Vraiment très très ferme.
En fait, quand je suis arrivé deux jours après, j'étais avec toutes mes affaires, avec ma toile de tente. J'ai posé mes affaires, j'ai tout mis, j'ai tout installé. Et je suis reparti, en fait, parce que j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise ici. Je ne suis pas habitué à la campagne. Ici, c'est beaucoup trop calme. Je viens de la ville, moi. Je suis habitué à vivre en ville.
Et là, moi, tout de suite, je me dis non, mais c'est pas possible. Je vais jamais vouloir qu'ils dorment dans une toile de tente, alors que nous, on dort dans des lieux où au moins on peut être debout.
Odile débarque chez moi avec son ordinateur qui est ouvert sur une page du Bon Coin. Et elle montre une super caravane à 400 euros. Je sens le truc venir gros comme une maison, enfin gros comme une caravane en tout cas.
Odile is calling right now.
Et donc Odile m'a appelé à ce moment-là et elle m'a dit qu'elle avait trouvé un un truc confortable pour que je puisse rester. Et donc elle m'a dit de venir pour que je l'aide à installer la caravane. Et donc quand j'ai vu la caravane, j'étais content. J'étais ouais, enfin, je peux ouais. Après tout, je peux rester ici. Mais enfin, c'était pas facile pour moi parce que c'est vraiment pas mon style, quoi.
From living to a
venir
studio,
d'un studio et
to live into our caravan.
Pour vivre en caravane,
can you imagine?
Tu peux imaginer?
Évidemment, après, il faut installer. Donc, je trouve une vieille gazinière, je récupère de la vaisselle, on lui fait des toilettes sèches, Anso lui achète une douche solaire.
On ne tient pas du tout nos résolutions de départ, en fait. Quoi.
Tout est prêt pour que JT puisse rester 2 mois ici. Alors, les 2 mois se passent super bien. On s'entend très bien. On est totalement insouciants. En vacances.
On fait des barbecues, des apéros. On va se baigner dans le Clain. Les amis viennent nous voir. C'est la belle période, en fait. L'été arrive et c'est chouette, quoi. Ouais.
Ouais, vas-y, continue la guitare. Faut pas le laisser là. Guitare.
Bravo. Ouais.
Bravo.
Moi, le mois d'août, mes vacances sont prévues. Et donc, je vais voir Anne-Sophie. Je lui dis, bah, si tu peux un peu, pas surveiller, mais être vigilante un peu avec JT, parce qu'il peut avoir des moments de cafard. Et là, je vois Anne-Sophie qui me regarde avec un drôle d'air. En fait, elle a rien capté du tout. Elle a jamais discuté avec JT. Ils écoutent de la musique. Ils se baignent. Ils rigolent.
C'est quoi?
Un chasseur.
C'est compliqué.
Elle n'a pas du tout envie de connaître l'histoire de JT.
Le sochette.
Et je pense que JT n'a aucune envie de lui raconter ces histoires.
Le sochette de Sacher.
Quoi? What? C'est la première fois que je me retrouve toute seule avec JT. Un matin, JT arrive chez moi et je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Il me parle des élections au Kenya. Et il m'explique que c'est la guerre civile et que c'est reparti comme avant et que ça va certainement bloquer son passeport. Moi, je comprends rien. Je vois juste qu'il est mal. Il est super mal. Et il est là, dehors, posé sur une palette qui est devant ma yourte.
When in Kenya, I come just like a political violence. That's why I'm here.
Il y a des violences politiques très fortes au Kenya, c'est pour ça que je suis arrivé en France.
And then my parents were killed by another. My parents were Kikuyu. I am a Kikuyu tribe.
Mais mes parents sont Kikuyu et je suis Kikuyu également.
So they were killed by another tribe.
Et ils ont été tués par une autre tribu.
And the, after that I used to live with my brother, my big brother.
Et après ça, j'ai vécu avec mon grand frère.
And after later in 2011.
Et en février 2011.
My brother was killed also. So they killed my brother because my brother died because he wanted to protect me. They wanted me to become a rebel like him, and my brother refused.
Mon frère est mort pour moi, pour me protéger et éviter que je devienne un rebelle comme lui.
When my brother was killed, I was also in trouble, so I decided to escape.
Quand mon frère a été tué, j'étais également en danger, donc j'ai dû m'enfuir.
Les jours raccourcissent. sais plus quand est-ce qu'on change d'heure, mais en tout cas, voilà, les jours raccourcissent, l'humidité arrive un peu sur le terrain, surtout que c'est un terrain qui est au bord de l'eau.
J'ai pas envie de montrer à JT que je suis inquiète, mais son passeport n'est toujours pas là. Et on commence à se demander où est-ce qu'il va dormir.
Il y a les mushrooms qui commencent à pousser.
Les champignons ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Dans la carotte ?
Oui, parce qu'il faut...
Ah,
elle
est humide.
Ouais. L'humidité, il y a eu le voilà, les champignons.
Ou peut-être mieux que tu viennes ici ou...
Dormir là. C'est tout.
Non, mais c'est bien que tu nous le dises, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas saine. Tu ne vas pas habiter dans un endroit où il y a des champignons, quoi. C'est pas sain.
Il faut qu'on installe autrement et ça va se faire. Il y a de la place dans la, même là-bas, même ici, pour mettre une petite armoire ou un truc que tu mettes tes fringues dedans. Que... Voilà, mais il faut qu'on s'en occupe. On va se réorganiser. D'accord.
Petit à petit, le terrain s'assombrit. Et notre quotidien aussi. JT attend le passeport, mais le passeport n'arrive pas. Alors JT sort courir dans les bois, il hurle, il frappe dans un arbre, il revient, la main ensanglantée. On pense ses blessures, mais le passeport n'est toujours pas là. Alors JT attend, il court dans les bois, hurle, frappe dans un arbre, il revient, la main ensanglantée. On pense ses blessures, le passeport n'est pas là. On l'attend, il court dans les bois, JT frappe, l'arbre hurle, il revient, la main ensanglantée, on pense ses blessures, le passeport n'est toujours pas là. Il attend, on hurle, on frappe dans un arbre, le passeport n'arrive pas. JT court, l'arbre attend, la main hurle, on pense les blessures, le passeport n'est toujours pas là. Il court dans les bois, JT sort courir, on attend les blessures, l'arbre attend le passeport, la main hurle, le passeport n'est toujours pas là. On attend JT, l'arbre est toujours là, le bois hurle, JT frappe, les blessures saignent, on soigne, le passeport n'est toujours pas là. Il attend JT qui court avec ses blessures dans les bois, on soigne l'arbre, la main n'arrive pas, le passeport n'est toujours pas là. JT hurle, on attend l'arbre, l'arbre court dans les bois, le passeport n'arrive pas, JT est toujours là, il sort courir dans les bois, on court après l'arbre, il hurle, on tend la main, le passeport n'est toujours pas là, il attend les blessures de JT qui court dans les bois, il attend l'arbre, mais l'arbre n'est plus là. Putain, d'accord. Putain, mais il a tout pété là.
Comment ?
Il a tout pété.
Ah, il a tout pété. Il a tout pété.
Putain.
Tout. Tout. Là, il y en a partout. Là.
Et l'intérieur, tout est cassé aussi ?
Ah ouais, je peux te montrer, oui. Ouais, tout est cassé. C'est là. Toc.
Oh putain.
Là. Je suis toute seule sur le terrain. Je suis chez moi, couchée. Et il y a JT qui est dans sa caravane. Et là, à un moment, j'entends des drôles de bruits. Donc je sors. Et qu'est-ce que je vois ? Mon JT avec une pelle à la main qui commence à casser tout. Toute la caravane là, qui commence à exploser les vitres. Et j'essaie de lui parler. Je lui dis, ben, JT, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais même plus trop ce qu'il me répond, mais il me répond comme si ce n'était pas à moi qui s'adressait. Et là, j'ai le cœur qui commence à cogner, à cogner, à cogner. Je me suis dit, bon, ça va partir en vrille. Je sens que ça part en vrille. Donc, très courageuse, je saute dans ma voiture, je prends ma voiture et je vais chez ma fille ben, pour m'abriter, pour me... Je ne sais pas, je craque un peu. Et ma fille me dit, ben, je vais voir ce qui se passe. Et elle revient, elle me dit, ben, j'étais en train de tout casser dans la caravane. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on appelle la police ? Et je dis, ben, non, on n'appelle pas la police. Il faudrait peut-être appeler un médecin. Et le médecin dit, non, s'il y a violence, je ne viens pas tout seul, je viens avec la police. On appelle les pompiers arrivent avec la police.
It was like a movie that day, because when the police came, I started running. I ran, the police were chasing me behind me. There was five police cars looking for me like I'm a gangster.
C'était comme dans un film. Quand la police est arrivée, j'ai commencé à courir. J'ai couru et il y avait 5 voitures de police qui me poursuivaient et j'avais l'impression d'être un gangster.
After I jumped to the river, it was very cold. Can you imagine how cold the water is? I swam and then the police, one policeman also jumped in the river, follow me. But me, I managed to escape.
Après, j'ai sauté dans la rivière et j'ai nagé. L'eau était hyper froide. Après, un policier a sauté lui aussi, il m'a poursuivi, mais j'ai quand même réussi à m'échapper.
And then after two hours, I thought the police were gone, so I came out from hiding, and I was arrested.
Après 2 heures à me cacher, je pensais que la police m'avait perdu, et donc je suis sorti, et à ce moment-là, ils m'ont arrêté.
Il lui faut un test d'alcoolémie, il a à peu près 2 grammes d'alcool. Et ensuite, il m'emmène aussi pour que je porte plainte. Et Je dis non, je ne veux pas porter plainte. La seule chose que je veux, c'est qu'il s'en sorte, que son passeport arrive et que cette, toute cette histoire soit terminée et que lui retrouve une vie normale, qu'on arrête de... Enfin, je sais pas, voilà, que tout s'arrête et que tout redevienne normal.
But after that, little by little, little by little...
Et après ça, en fait, enfin, petit à petit... Enfin, à chaque fois que je revenais, j'avais des, une très mauvaise image, des très mauvais souvenirs en fait de cet endroit. Et le jour suivant, en fait, j'ai pris toutes mes affaires, tous mes trucs, tous mes vêtements, et je suis parti vivre en fait pendant un mois chez mes amis.
JT ? Des fois, je crois JT qui vient récupérer des affaires et. Et on est là, et on se regarde comme deux cons. Ça va, oui, ça peut aller. Et toi, oui, ça va. Bref, il y a un truc qui est un peu... qui est cassé. Mais bah, Odile et moi, on s'inquiète quand même d'où il dort. Et quand il nous parle de ses nuits sur les canapés de ses copains, on se doute bien que c'est provisoire. Ses potes, ils ont son âge. Ils sont étudiants, ils n'ont pas les moyens de l'héberger... Et là, JT, il nous dit que de toute façon, il a croisé Jacqueline, qui lui a demandé de partir.
Et moi, j'affirme à Jacqueline et Philippe que j'assume, mais que je ne me vois pas le mettre dehors parce que c'est l'hiver qui arrive et qu'il commence à sacrément faire froid et que je ne le vois pas dormir à la rue. Mais il ne peut pas se réinstaller dans sa caravane qui est vraiment très froide, donc il s'installe dans la yourte, au rez-de-chaussée de la yourte. Voilà, et là, c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça fait deux personnes dans 20 mètres carrés, c'est pas très grand, et l'un et l'autre, on n'a pas l'habitude de cohabiter.
L'hiver, c'est la période la plus dure.
Le terrain... Et d'un glauque absolu, j'ai l'impression qu'il a plu du matin au soir. Le terrain est boueux partout. Il faut se lever le matin, couper le bois, faire le feu, mettre de l'eau à chauffer sur le gaz, dans des pièces froides et tout. Si on n'a pas le courage de se lever la nuit pour remettre une bûche, mais la yourte, le matin, il fait la même température qu'il fait dehors.
À cause de l'humidité et du froid, tout est gelé. L'herbe, la terre, les tuyaux qui sont reliés aux cuves de récupération d'eau de pluie. Les cuves elles-mêmes sont gelées. Comme on peut rien faire dehors, pour tuer le temps, JT regarde des films sur l'ordinateur d'Odile. Mais il tourne en rond. Enfin, on voit bien que c'est dur pour lui. Alors, faut qu'on trouve une solution. Ouais, il est pas bien ici. Et là, nous, on a besoin d'aide. Là, je me tourne vers celle qui m'a appelée au mois de mai pour héberger JT. Oui, Alexandra, c'est Anne-Sophie qui vient en yourte. Je voulais te parler, parce que c'est un peu compliqué la situation sur le terrain avec JT. Et qu'on aurait besoin d'un peu d'aide, voilà. Est-ce que tu peux me rappeler ? Merci. Alexandra me rappelle pas. Et on n'a pas plus de nouvelles d'Yvon.
C'est vrai que c'est là où je me dis c'est super dur, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution. Si on appelle une association, il est plus mineur, c'est un jeune adulte, donc les seules solutions, la seule solution, c'est d'appeler le 115 tous les jours et d'avoir une chambre... Je sais pas, 2-3 jours dans une semaine et pas plus.
Le 115. De toute façon, on en parle 5 secondes et après on oublie très vite l'idée.
Moi, de toute façon, ça me faisait mal au cœur aussi de savoir qu'il allait faire le 115 tous les jours et aller dormir je sais pas où tous les autres jours. Et c'est vrai que du coup, on se sent très très seul.
JT passe tout l'hiver dans la yourte d'Odile.
Il y a vraiment des super moments. Et puis il y a des moments où c'est très, très dur. Le printemps commence à revenir. Ça va faire presque un an que j'y étais là. On attend toujours le passeport, on attend le soleil. Et avec le soleil, tout va aller beaucoup mieux sur ce terrain.
C'était le terrain. De Anne-Sophie Pifka. Remerciements à Odile Mazon. Djoroge Kamao JT. Clément Rignac pour sa voix. Et Eric Avert.
Une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Du terrain, nous passons maintenant à la rue, un autre espace de rencontre. Dans Dialogue social, Clément nous raconte une manifestation à travers le regard de deux protagonistes qui se font face.
Documentaire.
Dialogue social de Clément Rignac.
Ils ont la haine, s'ils peuvent tuer un flic, ils tueront un flic. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est je suis sidéré, mais on est formé pour ça, mais quand même, c'est pas possible. Un collègue, il va sortir son flingue, il va les buter, quoi.
Le Black Bloc, c'est le cortège d'avant-tête, c'est quelque chose qui est formé à certaines manifestations. Et même des fois, juste en c'est, toute la manif ne peut être que ça, ce qu'on appelle les flics appellent des manifs sauvages.
Le Black Bloc, c'est des gens qui se réunissent autour de manifestations et pour casser les symboles du capitalisme et les flics qui représentent l'ordre et l'État, quoi.
On n'est pas dans un mouvement politique, on n'est pas dans un parti politique, tout le monde a une pensée différente. C'est très peu organisé, contrairement à ce qu'on croit. Je connais pas les noms des mecs, ils ne connaissent pas. On s'est quasiment jamais vus. Mais c'est juste qu'on est là, au même endroit, au même moment, pour à peu près les mêmes idées. C'est une révolte commune, en fait, c'est vraiment ça.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils cassent des vitrines? Est-ce qu'ils pensent qu'en cassant une vitrine ou une agence bancaire, on va changer la société? Ou est-ce qu'ils sont là pour se faire plaisir et se défouler? Moi, le mec, il me dirait, demain, on fait la révolution, on met en place le communisme, ça me ferait rire, parce que, voilà, je pense que ça a été usé, abusé, peut-être même détourné, mais encore, à la limite, ouais, il a un idéal, il a un but. Mais les blacks, ils ont rien. Ils viennent, ils cassent, ils sont...
L'idée, quand on pète des trucs, c'est pas de faire uniquement peur, c'est aussi de montrer qu'on n'est vraiment pas d'accord. Aujourd'hui, dans un monde où on est obligé d'être dans le très symbolique ou le très fort pour être médiatisé, entre guillemets, je pense qu'on est, on est obligé de passer par du cassage. Il faut y aller, il faut être violent pour que les mecs comprennent qu'ils n'ont pas tous les droits sur toi.
Quand tu pars en manif, tu prends quoi sur toi?
Déjà sapé en noir, grosse pompe.
Des rangers.
Un deuxième t-shirt noir pour la tête, pour se masquer.
Une combinaison figée pour pas que ça brûle.
Moi j'ai mes lunettes, donc je les enlève.
Des équipements spéciaux pour protéger des coups.
J'essaie d'avoir un truc de plongée, si je peux en avoir un.
Du matériel lacrymal pour repousser les gens. Après ça peut être le canon à eau.
J'humidifie le t-shirt pour la bouche. Je ne sais plus le nom du liquide exact, mais avant les manifs, ils nous enfilent gratos. C'est un truc pour que le lacrymo fasse moins effet sur la gorge.
Les grenades défensives, des flashballs.
Rien sur moi. Pas de carte d'identité, pas de téléphone, rien. Parce que si tu te fais choper, moins t'as, mieux c'est. Et toujours groupé aussi. Faut toujours être groupé. Quand tu vas en manif, tu vas à 3, minimum. Et quand tu sors de manif, tu sors à 3. Parce que si jamais un baqueux te chope par le col, si t'es 3, tu peux le pousser à 3 et courir. Si t'es tout seul, t'es niqué. Le premier bac que j'avais fait, c'était une manifestation sauvage. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai compris la violence policière, de répression manif. C'est la première fois que j'avais de manif, parce que la manif que j'avais faite, c'était évidemment les grosses manifs, CGT, machin, où il n'y a pas beaucoup de danger, quoi. Finalement, tu risques pas grand-chose. Et là, c'est la première fois que c'était en manif sauvage, donc illégal. Et donc, c'est la première fois où j'ai vraiment assisté aux charges de CRS. C'est la première fois où j'ai eu du gaz lacrymo pas loin de moi, donc où j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait faire, parce que ça faisait du lacrymo sur la gueule, quoi.
Ça fait quoi, justement, du lacrymo sur la gueule?
C'est pas agréable, quoi. Ça te fait bien chialer, ça picote bien les yeux. Puis moi, je sais pas, ça me fait un effet de... comme si je fumais 1000 clopes d'un coup. Tu sais, c'est vraiment, la première fois que tu fumes un pétard, par exemple, ça te arrache la gorge, bien sèche, bien amer, un goût un peu amer au fond. C'est, ça te fait bien tousser, bien chialer, c'est vraiment... ça part un peu avec de l'eau et des trucs comme ça, mais ça fait bien mal, quoi. Moi, je pensais pas que ça existait à ce point, tu vois. J'avais lu, évidemment, comme tout le monde, j'avais vu des vidéos comme tout le monde, mais le fait de le voir en soi, je pense, ça te montre à quel point, quand même, du côté de l'État, on voit un petit peu la répression policière et ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que les manifestants s'en plaignent autant, tu vois.
Le matin, on dit demain vous allez en manif à Paris, c'est un manif de ça, machin, le commandant est réuni, on se retrouve à telle heure, on s'équipe, on charge dans les bus, et puis après on monte à Paris, puis t'arrives sur place et t'es mis à disposition d'un commissaire. Paris, c'est toujours compliqué parce que c'est la capitale, mais t'es mis à disposition du commissaire local qui va t'implanter, te dire bon, bah, chacun un rôle, vous êtes rue, je veux dire, Vanneau-Varenne, c'est tous les rues des ministères, là, vous êtes là, vous êtes en barrage, là personne ne passe, voilà, il y a les consignes, puis on est en place et on attend que ça se passe, quoi. Et 9 fois sur 10, tu vois pas les manifestants. Hein. Et tu descends sur un, tu sais pas ce qui se passe, tu vois rien. Tu peux pas avoir une vue globale d'un dispositif, quoi. C'est tellement grand, quoi. Le black, il arrive, s'il veut péter la gueule au premier flic qu'il y a devant lui, il y a personne qui lui donnera l'ordre ou pas l'ordre.
Et par exemple, en 2016, lors des manifestations contre la loi travail, il y a eu pas mal de gens qui ont été
blessés. Ouais. Et il y a eu beaucoup de CRS qui ont été blessés aussi. À partir du moment où tu restes dans une manifestation où ça dégénère, où ça casse, où ça s'en prend force de l'ordre, il y a des sommations qui sont faites pour prévenir les braves gens qui rentrent chez eux. Voilà, c'est le principe. Les gens qui restent, après, voilà, ils savent où ils savent qu'ils sont dans une, enfin, entre guillemets, une zone temporaire et provisoire de non-droit où va y avoir des choses qui vont se passer qui sont, entre guillemets, anormales, quoi. Moi, ça me choque pas. Je veux dire, le mec qui vient balancer un pavé sur la tête d'un CRS, c'est malheureux, hein. On souhaite que personne ne soit blessé, mais qu'en même temps, il puisse prendre un mauvais coup, ça peut arriver, hein. Comment on interpelle gentiment un black bloc? Il va se laisser faire? Si on lui dit, monsieur, c'est pas bien ce que vous faites, vous allez me suivre avec moi au commissariat, on va vous placer en garde à vue, tu crois qu'il va venir? Donc il y a un moment où, quand la force doit rester à la loi, elle doit rester à la loi. Moi, ça me choque pas. Il y en a d'autres que ça choque, peut-être. C'est déontologique, mais moi, ça me choque pas.
Donc que des gens soient borgnes après une manifestation?
Et on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas été prévenus. Tu vas en manif, tu sais que ça dégénère, tu vois que ça casse, qu'il y a des dangers, que les flics sont pris à partie, ils vont riposter, tu le sais. Tu as des sommations, tu as 3 sommations avant qu'on fasse usage de la force. Et le mec, il est là. Voilà, quoi. Je veux dire, si tu viens me mettre un pain dans la gueule, faut pas t'attendre à ce que je te remette pas.
Non, je viens juste d'avoir une idée, parce qu'en fait, j'ai ce bouquin, moi. Juste quelques photos. Je me demandais si tu pouvais commenter. La manifestation est en train de se terminer quand j'ai reçu un projectile au visage venant du cordon de CRS. Mmh. Tout a été très vite, mais je suis pratiquement sûr que c'était un tir de flashball.
Si je n'avais pas pu récupérer là-bas, je n'aurais plus à voir, je pleurais, mon nez commençait à gonfler. J'ai très mal. Mmh. Catherine, tu veux une chemise fracturée en manifestation? Bah ouais, mais ça paraît aberrant.
Mais tu vois, Catherine, elle a pas une...
Elle a pas la tête de l'emploi. Mmh. Mais je sais, mais il peut y avoir des dégâts collatéraux. Hein. Quand tu, il faut s'imaginer, le mec, il en prend plein la gueule, on lui dit chargé, il a un casque, mais il y a de la buée, machin, truc. Il arrive, voilà, le premier qui est devant, seulement, je l'ai plaint, parce que voilà, l'idéal en maintien de l'ordre, c'est qu'il y ait zéro blessé d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, je veux dire, quand tu es dans une manifestation, pourquoi les CRS y chargent? C'est que ça a dégénéré. Si ça a dégénéré, ben, y a eu des sommations qui ont été faites, tout le monde est prévenu, ça va charger. Voilà.
C'est pas le flic en soi le problème. Même si lui en soi, on l'aime pas trop, c'est le côté institutionnel. De se dire qu'on a une institution en France qui arme l'État. Les CRS, c'est le bras armé de l'État. Qui si tu respectes pas la loi, ça va être de la répression. Peu importe, c'est-à-dire que le policier n'a pas de morale. Le policier obéit aux ordres. Un CRS, c'est vraiment tout con, hein, tu le vois en manif. T'as beau lui envoyer des molotovs sur la gueule, tant qu'il a pas reçu l'ordre de charger, il va pas charger. Et par contre, que t'aies rien fait ou que t'aies fait quelque chose, il va te charger dessus, et il va te marcher dessus, tu vas te prendre des coups de matraque, quoi que t'aies fait, que tu sois coupable ou pas. Donc à ce moment-là, tu te dis, putain, en fait, c'est des mecs qui ont pas de morale, qui sont armés jusqu'aux dents, avec des armures de partout, qui sont des gros boucliers, des flashballs, des machins, et ces mecs-là obéissent qu'aux ordres. Finalement, c'est très facile de les déshumaniser, ces gens-là. Parce qu'eux-mêmes se posent dans une position où ils sont plus humains, mais flics. Parce que certains... dans la famille aussi, il y a j'ai des connaissances, enfin des flics, quoi, dans les cousins et tout. Il y a un flic. Et je déteste pas. Parce que pour moi, c'est mon cousin, pas un flic. Mais si je le verrais dans les rangs en train de matraquer un mec ou quoi, j'aurais du mal à me considérer comme mon cousin. Le moment où on passe à l'acte, c'est souvent après que les premières tensions aient lieu. Je me souviens par exemple d'une manifestation à Ménilmontant à un moment. C'est après la première charge de flics que les premiers pavés ont été lancés. Quand les habitués ont vu qu'on était nassés et qu'on pouvait pas sortir de la rue, alors qu'on n'avait pas encore cassé, il y avait rien qui avait été pété encore. Et c'est après qu'il y a eu les premières grenades de désencerclement et les premières charges de flics que les premiers pavés ont commencé à être lancés, les premières poubelles ont été allumées, etc., etc., etc. Ce qui me fait chier dans les histoires de manifs, c'est qu'à chaque fois, le point de vue général va dire « Non, mais c'est parce qu'ils font des conneries qu'il y a de la répression. » Je pense que, effectivement, c'est parce qu'on casse qu'il y a de la charge aussi, mais je pense que de toute façon, l'État ne veut pas avoir de... ne veut pas admettre la possibilité qu'un mouvement libertaire, contre même l'idée même qu'il puisse y avoir un gouvernement, puisse exister politiquement en France.
Il y a un moment, les blacks, ils nous balançaient dessus des bouteilles d'acide, quoi. Je veux dire, voilà, elle tombe à côté, machin, t'es en barrage, elle tombe à côté, ça fume, quoi. C'est après, je pense que les premières fois que ça a dû arriver, les collègues, sur le moment, ils ont pas dû se rendre compte, et puis après, se dire, eh, putain, j'aurais pris la bouteille d'acide, il n'y a rien qui protège contre l'acide, hein. Sauf des épaisseurs multiples. Voilà. Et là, tu dois te dire, ah, putain, ouh. En manif, tu vois, tu vas te retrouver dans des situations extrêmes ou hyper dangereuses, d'un côté comme de l'autre, ou hyper... voilà, ça court,
ça...
tu dois interpeller un mec, il tombe par terre, ou toi tu tombes, les mecs ils reviennent.
T'entends les grenades d'encerclement, tu vois les premiers gaz qui se lancent, ça pète.
Enfin, ça va tellement vite que t'as pas le temps de te rendre compte.
Pour s'encourager, faut chanter, faut gueuler, faut rentrer dedans... Faut lancer l'adrénaline, quoi. Et une fois que t'es lancé dedans, t'as l'impression d'être sur un front, quoi.
Ça monte tellement vite. Une des rares fois où j'avais chargé à Paris, c'était fou, parce que ça faisait 2 heures qu'on prenait des pavés sur la gueule, quand même. Et là, à un moment, le commissaire derrière nous, il dit « chargez », quoi. On charge. Alors, putain, moi je charge, j'arrive en face, d'un mur comme ça, et c'était quoi, une gonzesse? Et t'as la matraque comme ça, t'en as plein le cul de prendre des pafetons, et ben là, ben les barre-toi. Et elle se barre, quoi. On n'est pas des machines. Ça aurait été un étudiant avec un pavé dans la main, ben j'aurais peut-être foutu un coup de matraque dans la gueule, oui. Mais et l'avantage quand tu es en unité constituée, c'est qu'il y a toujours, quand tu vas déraper, parce que c'est humain, tu es sous pression, ça t'en as pris plein la gueule pendant un certain temps, il y a toujours un qui va t'attraper par le manteau. Stop, arrête. Et c'est après que tu te rends compte, putain, waouh, que tu prends réellement conscience de ce qui t'est arrivé, de ce que tu as vécu.
Quand je vois des mecs que j'ai déjà vus sans être cagoulés, et que je les vois cagoulés, et que je les vois prendre des molotovs, les allumer, les balancer dans un rang de flics, c'est impressionnant. Parce qu'il y en a des mecs qui risquent presque leur peau à faire ça, tu vois. Et te dire qu'ils sont tellement révoltés par ce système, qu'ils sont capables de passer un acte qui est tellement violent, j'ai plus de respect que de peur, je pense, maintenant.
Et pourquoi on grenade et qu'est-ce que ça fait?
C'est pour faire déplacer repousser les assaillants. C'est-à-dire que nous, on est en barrage, les mecs qui viennent au contact, ils nous balancent des cartons, on leur balance des grenades pour qu'ils reculent. Et à la place de la nation, c'est toujours le même jeu. Hein. Ils faisaient le tour, donc quand ils étaient grenadés d'un côté, ils allaient sur une autre rue perpendiculaire, et puis après une autre, et puis ça jouait pendant 2 heures. Ils se défoulent, on va dire ça comme ça.
Et vous, vous faites quoi dans ces...
On attend. Ah non, c'est toujours sur ordre. Je pense que tu pourrais avoir beaucoup plus de dérapages si on n'était pas en unité constituée. Mais là, c'est sur ordre. C'est-à-dire que voilà, t'es en barrage et tu restes là. Et même si ça devient très très dangereux, enfin voilà quoi, tu restes en barrage, tu bouges pas. Mais après, c'est tout un dispositif. Sur la place de la Nation, par exemple, il doit y avoir une dizaine de rues perpendiculaires. Donc, je sais pas, on était 10 ou 20 compagnies quand même tout autour, avec une échappatoire, parce qu'on n'a pas le droit de laisser... Il y a toujours une échappatoire pour que les manifestants puissent, qu'on dit entre guillemets de bonne foi, ou qu'ils veulent s'en aller, puissent se barrer. Quoi. Parce que c'est pareil, la place de la Nation, quand il reste 300 casseurs, hein, si on veut, on ferme tout, on interpelle tout le monde. Hein. Mais le principe, on maintient l'ordre, c'est toujours de laisser un échappatoire pour que les gens qui, au dernier moment, prennent conscience que ce qu'ils font, c'est pas bien, que ça grenade depuis 2 heures, puissent se sauver. Et après, donc nous, enfin les unités de maintien de l'ordre pur sont en général comme ça. Et après, il y a des unités de la préfecture de police qui sont en civil, mais qui sont des flics de base, eux, par contre. Ils regroupent les bacs, tout ça, ils interviennent, ils essaient d'interpeller les plus virulents, les plus dangereux, voilà. Quand je suis rentré, à l'époque, il y avait quatre grandes directions dans la police nationale. La PAF, c'était les aéroports. Il y avait les polices urbaines, c'était les commissariats, la préfecture de police et les CRS. J'avais tout demandé sauf les CRS. Je n'ai pas eu une formation différente. Enfin, j'aurais très bien pu faire de la police secours. Dès mon intégration dans la police, il y a pas, je crois qu'on n'est pas des machines, on n'est pas. Alors, il y a des spécificités. Après, on t'apprend à te mettre en rang, les différents mouvements de foule, les choses comme ça. Mais on n'est pas des. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit des soldats. Je pense que ça peut. C'est peut-être de moins en moins un métier qui est fait par passion, mais c'est un métier passionnant, quoi. Pour le faire et dans de bonnes conditions, il faut au moins avoir la foi au départ, c'est à la fois d'aider et de contribuer à la société. Alors voilà, moi quand je suis rentré, t'avais la foi. Enfin, les gens, ils avaient la foi quand ils étaient dans l'éducation nationale, ils avaient la foi quand ils travaillaient à la poste, enfin, à la SNCF, quoi. Maintenant, les gens, ils rentrent, c'est boulot casse-croûte, hein, voilà. Au moins pour la moitié, quoi. Et c'est dommage parce que c'est des métiers, tu travailles sur de l'humain, donc c'est des métiers où il faut que tu t'investisses. Et si t'es pas dans l'investissement complet parce que t'as la foi, ben je pense que t'es pas bon.
Que ça se termine une manifestation?
Quand les manifestants ont décidé de rentrer chez eux. Et le meilleur allié de du CRS, c'est la pluie. Ça te plaît parce que tu as l'impression, des sensations que tu peux avoir, tu as la sensation de vivre parce que tu es au cœur des événements. Tu es au cœur des événements. Alors, le soir, tu regardais, ah putain, ben, c'est nous, on était à la place de la nation. Enfin, voilà, comme les gens qui sont contents de se trouver sur le journal. Ou, ben, voilà quoi. Mais, et puis, tu es dans l'actualité, tu y es dans l'actualité, comme les manifestants. Quoi. Putain, il y a plein de monde à la manif, ouais, tu es super content quand tu repars, tu as l'impression que tu as renversé le monde, que ben, tu as la même sensation quand tu es CRS. C'est la vie, hein. C'est la vie.
La manifestation, c'est la vie.
Ouais, des gens qui manifestent, qui sont pas contents, qui... Il veut dire un cul de CRS.
Quand je rentre chez moi, je regarde sur Internet, sur les groupes, parce qu'il y a des mecs qui sont là avec leur portable et qui mettent à jour tout ce qui se passe, instant par instant. Savoir où les mecs en sont, combien de personnes se sont fait arrêter, s'ils se sont fait arrêter, si tout le monde a réussi à se barrer ou pas. Si les flics ont été archi-violents, s'ils ont été un peu violents, s'ils ont été très violents. Si, enfin, on sait, voilà, un peu quoi. Parce que je pense que j'ai besoin d'être rassuré, de me dire que j'ai pas été un gros lâche à me barrer et qu'il s'est passé plein de trucs. Ça a été le cas, hein, le premier bloc où j'étais, les mecs se sont fait arrêter et moi je me suis barré. C'est le moment où tout en... moi je m'en suis un peu voulu, mais en même temps je me dis que je suis pas encore assez dedans pour me dire que j'aurais pu faire quoi que ce soit. Mais j'aurais dû peut-être, je sais pas vraiment. Donc je me tiens informé, et puis après je me fais bouffer, j'essaie de penser à autre chose. Je sais pas, je regarde un film, je mets un truc, j'essaie de penser à autre chose quoi.
Dialogue social de Clément Ragnac. Merci à... Et...
Inouï.
Inouï,
c'est fini pour aujourd'hui.
À très bientôt pour de nouvelles découvertes sonores.
Inouï.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.